Bulle d'histoire.
Hein?
Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée.
Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art Disney. Aujourd'hui, je reçois Benoît Vidal, qui a réalisé un fantastique roman photo historique. Le titre est Gaston en Normandie. L'éditeur, c'est Fulubulubu. J'avais déjà reçu une autrice précédemment, aussi pour un roman photo totalement barré, totalement décalé. Là, on n'est pas du tout dans le même style, mais on est quand même sur la même technique narrative. Bonjour Benoît, je sais que la prochaine question t'inquiète, mais il faut que je la pose, parce que je la pose à tout le monde. Qui es-tu ?
Oui, une question difficile en fait. Bon, si je suis ici, je suis ici en tant qu'auteur de romans graphiques, de romans photos. J'imagine qu'on aura l'occasion d'expliquer que c'est pas tout à fait des romans photos comme on a l'habitude de les imaginer. Mais je dois dire que j'ai une double casquette. Auteur de romans photos, c'est pas mon métier principal, et je suis aussi par ailleurs, ça n'a rien à voir, enseignant chercheur en sciences de gestion. Donc voilà, c'est un peu original, mais j'ai cette double casquette.
C'est d'autant plus intéressant alors.
Oui, alors bon, en sciences de gestion, on pourrait presque le mettre de côté, mais le côté chercheur, le côté auteur d'articles de recherche, le procédé en fait de révision, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mes relations avec mon éditeur Fulubulubu, ou effectivement, on ne sait jamais trop comment le dire. Voilà, il y a quand même des parallèles. Je suis aussi un ancien ado qui rêvait de faire de la bande dessinée, donc ces ouvrages qui sont construits non pas avec des dessins que je fais moi, mais avec des images d'archives que j'assemble comme, et qui se lisent comme une bande dessinée, puisqu'il y a des cases, des bulles, des bandes, enfin ça se lit vraiment. Si c'était pas des photos, ça serait vraiment une bande dessinée hyper classique. Ça se lit vraiment de façon très très classique pour un lecteur de bande dessinée.
Alors, c'est ton deuxième roman photo ?
Même mon troisième, c'est même mon quatrième, mais c'est le deuxième édité chez Fulubulubu. J'en ai édité un autre chez un éditeur qui s'appelle Eppel, qui est en fait un éditeur associé à l'école lacanienne de psychanalyse. Et donc c'est un ouvrage qui parle c'est aussi sur le même procédé, hein, avec, je vais interroger des spécialistes qui me parlent cette fois d'un artiste. Donc c'est vraiment du documentaire, c'est beaucoup moins personnel, c'est moins mon bébé, donc peut-être qu'on en parlera moins, mais c'est un artiste qui a créé des œuvres qui remettent en cause les classifications psychiatriques et les classifications du monde de l'art et les classifications en général. Et donc c'est un ouvrage assez décalé, et je trouvais ça très drôle. Enfin, drôle et percutant d'utiliser un média ou un moyen d'expression qui est lui-même inclassable pour parler d'un artiste qui remet en cause des classifications. L'inconvénient, c'est que c'est un livre, et j'ai un peu le même problème avec Gaston Normandie et Pauline à Paris, c'est que les libraires ne savent pas où le mettre, où le classer, et les lecteurs sont aussi assez désemparés devant ces ouvrages. Et
j'espère que notre interview va en faire rencontrer un certain nombre avec Gaston en Normandie. J'allais dire Gaston à Paris, mais c'est Gaston en Normandie. Parce que le précédent, c'était Pauline à Paris, c'est ça ?
Oui. Voilà. J'ai dit que j'en avais fait quatre. Alors, en fait, Pauline à Paris et Gaston en Normandie sont les deux qui ont été édités chez Fulubulubu. Et ils se complètent, enfin, progression, ils se répondent l'un avec l'autre. Et en fait, celui que j'ai fait, mais que j'ai auto-édité, en premier, donc mon premier ouvrage, c'était en fait des histoires du débarquement racontées par ma grand-mère. C'était des planches, je faisais mes premiers pas, quoi, avec ce média, et ça a donné lieu à un ouvrage, mais qui n'est pas édité.
Donc là, le principe, c'est que c'est donc des personnes de ta famille, ta grand-mère, qui est un peu l'héroïne des deux romans photos, ton père qui est l'autre narrateur, toi qui viens te rajouter, qui est un troisième narrateur. Oui. C'est à la fois une histoire de famille et c'est en même temps une histoire de la Normandie, de la France. C'est assez intéressant, ça, ce côté, on part du petit pour aller vers le très grand.
C'est-à-dire que En fait, ma façon de procéder, c'est d'interroger des gens, je vais généraliser, hein, et donc de les photographier et d'avoir une bande-son. Le matériau initial, c'est la bande-son. Il y a toujours une bande-son que je vais ensuite illustrer, et le narrateur que l'on va retrouver en photo conduit la narration, conduit l'histoire, et donc il parle. Et donc j'invite le lecteur à écouter quelqu'un. Alors c'est ma grand-mère qui est un peu le personnage central, du moins on la retrouve dans les deux livres. Dans Pauline à Paris, elle raconte l'histoire d'une dame qu'elle a connue, c'est une histoire vraie. Et donc elle raconte une vie, et donc effectivement à travers la vie de cette dame qui est née au 19e siècle, donc qu'elle a connue. Quand ma grand-mère qui est née en 1909 rencontre cette dame, elle a déjà une trentaine d'années, elle est une enfant, donc voilà, c'est une vie qui est à cheval entre la fin du 19e siècle et le 20e siècle. Donc à travers cette vie, on a l'histoire de France vue par une vie simple. Et puis, dans le deuxième bouquin, je vais croiser les souvenirs de ma grand-mère avec les souvenirs de mon père, qui avait 7 ans en 1944 et qui était à Bayeux en Normandie. Et donc, ils ont été témoins du débarquement de 1944. Et donc, le sujet du deuxième livre, c'est le débarquement. Mais j'interviens en voix off, ce qui va aussi enrichir et donner d'autres profondeurs aux ouvrages, c'est que c'est pas uniquement des livres de témoignages, c'est aussi une réflexion personnelle que je mène sur qu'est-ce qui me motive à aller collecter la mémoire, et qu'on peut généraliser à toute personne qui s'intéresse à l'histoire ou à la mémoire familiale ou au généalogiste. Et donc c'est un travail un petit peu plus personnel.
C'est un travail personnel, mais en même temps, c'est un travail qui dépasse, je dirais, de beaucoup l'histoire personnelle, parce que si je pense sur la page 12, il y a une grande casque, une gravure, on va dire une gravure probablement des Égyptiens ou des Assyriens. Enfin, c'est une gravure comme le 19e en faisait beaucoup, avec des périodes un peu indistinctes, mais il y a quelques phrases qui sont assez belles, et je trouve qu'ils éclairent énormément la suite de l'ouvrage. Donc tu commences, les histoires sont des matières molles, elles prennent des formes différentes en fonction du conteur qui les transforme et les interprète, mais aussi en fonction de l'auditeur qui cherche une histoire, pas celle que le conteur croit transmettre, mais celle que l'auditeur souhaite entendre, son histoire. Je trouve que c'est absolument parfaitement résumé le projet de Gaston en Normandie.
Oui, alors l'illustration c'est Gustave Doré, c'est la Bible en fait. Donc, je dis pas de bêtises, oui, c'est la Bible, je crois que c'est peut-être un épisode sur le roi David ou quelque chose comme ça. Dans Pauline à Paris, ma grand-mère raconte donc la vie d'une dame qu'elle a connue, et en fait, j'explique au lecteur que quand elle me raconte cette histoire, bon, moi, surtout quand je suis enfant, faut imaginer qu'il me passe plein d'images à travers la tête, et je prends tout au premier degré. Bon, c'est une histoire vraie. Et quand je me mets à chercher des illustrations, je me mets à douter, parce que quand elle me parle du défilé des mutilés, je ne sais pas ce que c'est. En fait, quand il faut trouver des illustrations, on se rend compte qu'un défilé mutilé, mais comment c'est possible? On ne fait pas le défilé des mutilés. Bon, alors c'est comme ça que je découvre qu'en fait, en 1919, il y a eu le défilé du 14 juillet, il y avait les mutilés. Donc des fois, je trouve des explications, des fois, je n'en trouve pas. Et je me mets à douter de la véracité de l'épisode des anthropophages en Afrique, qui sont déjà un peu trop clichés. Et donc, je me mets à imaginer que ma grand-mère, en fait, en tant que conteuse, va transmettre une histoire vraie, mais elle va aussi boucher les trous. Et elle va, pour boucher les trous, pour que son histoire ait un sens et soit complète, elle va elle-même interpréter ou rajouter des choses. Et c'est ce que je fais aussi, moi, quand je vais illustrer son histoire. Je me mets aussi moi-même à compléter ou à mettre mon propre imaginaire. Donc, dans une histoire, le conteur interprète, hein, et transforme dans une histoire vraie, j'entends. Dans Gaston en Normandie, je me suis amusé à partir du point de vue inverse, c'est-à-dire qu'il y a le conteur qui transforme l'histoire, mais il y a aussi celui qui écoute, parce qu'on ne retient pas tous la même histoire. Et quand on écoute une histoire, on n'en retient pas les mêmes choses. Une personne va retenir certains éléments, parce que ça résonnera avec sa propre vie ou avec ses propres questionnements du moment d'ailleurs. On ne retient pas les mêmes choses à une époque ou à une autre. Et donc, voilà, ça fait un petit peu ce diptyque. Et en tant que récepteur, disons, d'une histoire qui est le débarquement, j'ai poussé un petit peu l'analyse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'intéressait réellement derrière comment dire, les faits derrière les faits historiques, j'allais dire les anecdotes, c'est un peu plus que les anecdotes, enfin, c'est des choses vécues et qui sont parfois assez tragiques ou disons ou au contraire joyeuses, hein, parce que ça s'accompagne aussi d'une certaine la joie de la libération. On retrouve cet élément dans beaucoup de souvenirs de mon père et de ma grand-mère. Mais j'essaie de comprendre aussi qu'est-ce que moi j'entendais. Voilà. Et on se rend compte qu'en fait, on a parfois c'est presque de la psychanalyse, d'un certain moment, à se dire que finalement, on entend autre chose.